Happy Hour scientifique.
C'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les deux.
1972, trois experts et expertes du MIT rassemblés au sein du Club de Rome s'interrogent sur les limites à la croissance économique dans un monde de ressources finies et publient leurs conclusions dans le fameux rapport Meadows qui connaîtra ensuite un succès retentissant. Cette même année 1972, mais cette fois de façon beaucoup plus discrète, le brillant mathématicien français Alexandre Grothendieck prononce une conférence intitulée « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» et dénonce notamment une instrumentalisation de la science par le pouvoir et le monde militaire. Et là, vous allez me dire, mais qu'ont en commun la croissance économique et la recherche scientifique? Eh bien, peut-être plus de choses que vous ne le pensez. Après tout, et si on avait sous-estimé le rôle de la science dans la course effrénée à la croissance et par extension dans le désastre écologique actuel et futur? En 2022, 50 ans après la conférence de Grothendieck, un rapport de l'Inter-Academy Partnership, qui fédère les académies des sciences du monde entier, dressait un constat macabre de l'état actuel de la recherche scientifique. Je cite... Partout dans le monde, la culture académique évolue dans le sens d'une commercialisation et d'attitudes guidées par le marché, sous la pression du capitalisme dérégulé et de la diminution des financements gouvernementaux. Fin de citation. Alors, à l'heure de l'essor sans limite des technosciences, de la marchandisation de la recherche et de la course à la publication, de la mise en concurrence toujours plus poussée des laboratoires et des chercheurs et chercheuses, de l'explosion des revues prédatrices et des cas de fraude scientifique, ne serait-il pas temps d'engager un programme de décroissance de la recherche, en bref, une décroissance ? Ce néologisme fondé par le biologiste Jacques Testard, en 2021, qualifie, je cite, « une science qui ne serait pas animée par l'obsession de la croissance ». Reste encore à décrire concrètement les objectifs et les perspectives de cette décroissance, et c'est justement tout l'objet de l'ouvrage de notre invité du jour. Bonjour Nicolas Chevassieux-Louis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur la Piawar scientifique. Tu es journaliste et historien, on te doit notamment les ouvrages « Malscience, de la fraude dans les labos au seuil » en 2016, « Un iceberg dans mon whisky quand la technologie dérape aussi au seuil » en 2009. Et nous te recevons aujourd'hui pour parler de ton dernier livre, Décroissance, publié le 22 août dernier aux éditions Agon. Dans ce livre, tu poses un diagnostic éclairé et complet de l'asservissement progressif de la recherche scientifique à la croissance et au marché, et de sa responsabilité dans la crise écologique et climatique. Tu fais aussi plusieurs propositions dans le sens d'une politique de décroissance, et nous sommes ensemble pendant une heure pour en discuter dans ce 52e épisode de la Piawar scientifique. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné aujourd'hui de Thomas qui sera à mes côtés pendant l'interview. Salut Thomas.
Salut.
Sacha qui nous fera une chronique sur le fameux Alexandre Grothendieck et son appel à déserter la recherche scientifique. Salut Sacha.
Eh oui, salut.
Corentin qui nous rejoindra tout à l'heure pour nous parler de la course au productivisme scientifique. En fin d'émission, on jouera aussi avec Lola au fameux Caps ou pas Caps, et Chiara et Pierre-Yves sont aujourd'hui à la technique. Mais pour commencer cette émission, et avant de plonger dans la fameuse décroissance, place à une petite revue d'actu scientifique avec Marie pour les gorgées de science.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Pour ces gorgées de science, je ne pouvais pas passer à côté des récompenses ultimes de la science qui ont été fraîchement attribuées.
Tu parles des prix Nobel ?
Eh ben non, parce que bon, rappelons-le, ces prix récompensent surtout des hommes blancs de plus de 70 ans, et surtout, ils ont été créés par l'inventeur de la dynamite à la fin de sa vie, histoire de se racheter une bonne conscience après avoir inventé un truc explosif, littéralement. Pas sûr que ça colle avec l'ambiance Happy Hour scientifique. Donc moi, j'ai décidé de vous parler de distinctions bien plus intéressantes, puisque bien plus amusantes. Les prix Ig Nobel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Ig Nobel, dont cette année marquait la 35e édition, ce sont des prix qui, je cite, « récompensent des réalisations si surprenantes qu'elles font rire, puis réfléchir ». Un peu les prix Nobel de l'absurde, la dynamite en moins.
Du coup, il y a aussi de la physique, de la chimie, de la médecine.
Exactement. Certaines catégories reviennent chaque année, comme la physique, la chimie, la médecine, la littérature, la paix, comme dans un prix Nobel. Mais d'autres changent en fonction de l'actualité scientifique. Donc c'est parti pour un petit florilège de l'édition 2025 qui a été célébré le 18 septembre dernier à Boston. En physique, des chercheurs italiens et espagnols ont étudié scientifiquement les causes des grumeaux dans la sauce cacio e pepe. Résultat, ils ont sorti une recette optimisée pour une texture parfaitement lisse. Et pour ça, les restaurants italiens et les mangeurs de pâtes les remercient. En chimie, une équipe a montré que l'ingestion de téflon, donc oui, le téflon, le PFAS des poils anti-adhésives. Donc l'ingestion de téflon avec son repas provoque une sensation de remplissage, je cite. Donc un nouveau coupe-faim, parfait pour déclencher de nouveaux troubles alimentaires de plus en plus toxiques. En pédiatrie, des chercheurs américains ont découvert que lorsqu'une mère mange de l'ail, son bébé tète plus longtemps. Ce qui confirme une réalité universelle. Dans la vie, l'ail, ça rend vraiment tout meilleur. On a aussi la littérature, pour laquelle l'Américain William Bean a passé 35 ans à mesurer la pousse de l'un de ses ongles et à le documenter dans de nombreux ouvrages. Pour pas que vous les lisiez tous, en gros, ça pousse de moins en moins vite avec l'âge. Voilà, merci à lui. La psychologie, où deux chercheurs, polonais et australiens, ont montré que complimenter quelqu'un sur son intelligence renforce son narcissisme. La nutrition, où une équipe internationale a étudié les préférences alimentaires de lézards arc-en-ciel, et notamment découvert qu'ils ont des goûts bien tranchés en matière de pizza. C'est vrai, ils ont vraiment étudié sur la pizza, et pour info, ils préfèrent la 4 fromages. Ils savent pas pourquoi, mais ils préfèrent la 4 fromages. En biologie, des Japonais ont montré que peindre des vaches en zèbre les protège mieux des mouches. Et ils ont donc prouvé, par la même occasion, que les rayures des zèbres les protègent bien des insectes, comme on le supposait. En ingénierie, deux chercheurs indiens se sont penchés sur un vrai problème universel, l'impact des chaussures malodorantes sur la conception des rangements à chaussures. C'est de la science qui sent le vécu, si je peux me permettre. Et pour terminer, Happy Hour scientifique oblige, on va trinquer aux deux prix qui concernent des recherches sur l'alcool. Cette année, il y en a deux. Le prix d'aviation, pour lequel des chercheurs espagnols ont testé les capacités de vol et d'écolocation de chauves-souris ivres. Donc verdict, elles volent moins bien après un verre.
Étonnant.
Voler ou conduire, il faut choisir chez les chauves-souris aussi. Et enfin, le dernier, le prix Ig Nobel de la paix. Donc pour ça, une équipe allemande a montré qu'un Allemand légèrement ivre prononce mieux le néerlandais qu'un Allemand sobre. Bon, alors, il précise bien que c'est une faible dose d'alcool et même que cette amélioration n'est pas ressentie par le locuteur lui-même. Mais bon, comme j'ai dit au début de ma chronique, ces prix sont conçus pour faire rire, puis réfléchir. J'ai donc ri, puis j'ai réfléchi, et j'ai décidé d'extrapoler cette étude pour retenir que l'alcool améliore la maîtrise d'une langue étrangère. Donc, santé, ou plutôt pros, cheers, ou chez l'effet.
Merci beaucoup Marie pour ce florilège merveilleux. Et maintenant je me tourne vers toi Nicolas, et avant de rentrer dans le cœur de ton ouvrage, on est parti pour les shots à l'invité.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Alors Nicolas, je t'explique le principe du jeu et je le rappelle pour nos auditeurs, tu as une minute pour répondre à un maximum de mes questions. On est parti ?
On est parti.
Allez, top. Nicolas, on est au bar, c'est la Chower, qu'est-ce que tu commandes ?
Un verre de blanc.
Un verre de blanc. Est-ce que tu as utilisé ChatGPT pour écrire ton livre ?
Je ne sais pas ce que c'est que ChatGPT.
Est-ce que tu as un pronostic pour le prochain ou la prochaine première ministre ?
Je souhaiterais qu'il n'y ait plus de premier ministre.
Et si jamais, projetons-nous, si jamais c'était toi, tu mettrais qui au ministère de la Recherche ?
Ah bah moi aussi.
Si tu pouvais ressusciter un chercheur ou une chercheuse du passé, ce serait qui ? Et attention, pas le droit de dire Grothendieck.
Non.
Tu refuses la question ?
Non, je suis d'accord avec la contrainte.
D'accord.
J'ai une très grande admiration pour François Jacob.
Ok.
Prix Nobel de biologie.
Si tu devais faire la promo de la décroissance en une phrase, ce serait quoi ?
Il n'y a pas de progression infinie possible des connaissances dans un monde ressources finies.
Magnifique. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Nicolas. Et avant de passer à l'interview proprement dite, comme je disais tout à l'heure, on aura une chronique de Sacha qui va nous parler justement de ce fameux Alexandre Grothendieck. Je te laisse la main, Sacha.
Allons-nous continuer la recherche scientifique ? C'est la fameuse question posée par un déroutant personnage, Alexandre Grothendieck. C'est lors d'une conférence tenue le 27 janvier 1972 au CERN, le Centre européen des recherches nucléaires, que ce grand mathématicien jeta un pavé dans la mare. Alors que 2 ans auparavant, il démissionne de son poste à l'Institut des hautes études scientifiques de Bure-sur-Yvette, principalement pour cause de financement par l'armée, Grothendieck déclare, devant une assemblée de chercheurs, la chose suivante. Au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux appréhender une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, mais qu'elle proviendra d'un changement de civilisation. » Fin de citation. Après sa démission, Grothendieck participe à la création du mouvement Survivre, plus tard renommé Survivre et Vivre. Ce groupe de réflexion politique, fondé à Montréal en 1970, devient une référence de la critique des sciences. Entre autres, il dénonce le monopole de la science sur la vérité, sa prétention à l'universalité, ainsi que son lien avec l'industrie. Le mouvement est considéré comme précurseur de la pensée écologiste. Grothendieck revendique son antimilitarisme radical, ainsi que ses positions antinucléaires. Lui, qui est fils d'un père anarchiste ukrainien et d'une mère révolutionnaire allemande opposée au nazisme, il gardera en lui, toute sa vie, une abjection pour la guerre et le pouvoir militaire. Lors de ses jeunes années, Grothendieck se dévoue corps et âme à la recherche mathématique. Très vite brillant, il désire la pratique d'une recherche pure, dénuée d'applications matérielles. Ses ambitions sont grandes, son aura vite, fascine et impressionne.
Grothendieck, je dirais que c'est le mathématicien qui a dit non.
Il est totalement en rupture par rapport à la méthode standard d'approche des mathématiques.
C'était vraiment le centre névralgique des mathématiques mondiales.
Il est anarchiste, quoi. C'est au bon sens du terme, c'est-à-dire ni dieu ni maître.
Il écrasait les autres et je pense qu'il le voulait pas.
Grothendieck, c'est désespérant. Parce qu'il me faut 3 ans pour comprendre son séminaire d'une seule année.
Je dirais qu'il ne cherche pas à décrire le monde, il cherche à décrire l'harmonie du monde. Il est comme les grands ancêtres, il est Euclide, il est Pythagore, il est Thalès, enfin je veux dire.
S'il y a un truc à faire quand même maintenant, à l'heure actuelle, là, dans ces années-là, c'est de partir à sa recherche.
Je crois que cet homme a vu la face de Dieu.
Comme on l'entend dans cet extrait plus qu'élogieux tiré du film Alexandre Grothendieck sur les routes d'un génie, il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, sûrement le plus iconique. Auteur d'une brillante thèse sur l'analyse fonctionnelle, pionnier de la géométrie algébrique moderne, il obtient la célèbre médaille Fields en 1966. Puis vient la guerre du Vietnam, l'horreur de la science utilisée par le complexe militaro-industriel pour décimer des populations. Il offre sa médaille Fields au gouvernement nord-vietnamien pour dénoncer les bombardements américains. Grothendieck change de cap, s'éloigne, se radicalise. Il continue de travailler dans son coin, écrit plusieurs manuscrits de haute voltige en mathématiques qu'il ne fera pas publier, ainsi qu'une grande autobiographie, Récolte et semaille. En 88, il refuse le prestigieux prix Crawford ainsi que le $1,5 million qui l'accompagne. Il choisit délibérément de s'isoler, vivant reclus en ermite dans les Pyrénées, où il finira sa vie en 2014. De par son engagement radical, Grothendieck est considéré comme un pionnier de la lutte écologique européenne. Il a anticipé les désastres écocidaires où une technoscience aveuglément asservie aux intérêts matérialistes et productivistes menace l'humanité tout entière. Il laisse derrière lui des milliers de pages d'écrits mathématiques et de réflexions. Aujourd'hui, le flambeau grothendieckien est repris par des scientifiques. Au CNRS, le biophysicien François Graner organise des conférences intitulées « Faut-il arrêter la recherche ?» tout en poursuivant ses propres recherches sur les mousses. Labo 1.5, Sciences citoyennes, Stop Recherche Complice, Expertise Climat ou encore Scientifiques en Rébellion, nombre sous les groupes qui tentent aujourd'hui de repolitiser la place de la recherche scientifique. Alors, en fin de compte, allons-nous décroître la recherche ou bien poursuivre dans l'escalade techno-solutionniste ?
Merci beaucoup Sacha pour ce joli portrait d'Alexandre Grothendieck. Et justement Nicolas, dans ton ouvrage, tu démarres ton ouvrage en parlant de Grothendieck, en parlant de cette fameuse conférence au CERN, et il semble jouer un rôle essentiel dans le propos que tu portes. Et toi, tu es toi-même également un scientifique, puisque tu as soutenu ta thèse en neurobiologie en 1998, si je ne me trompe pas, avant de devenir journaliste. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à Grothendieck ? Comment est-ce qu'il a influencé ta vision de la recherche scientifique ? Et plus généralement, qu'est-ce qui t'a envie de donner envie de te lancer dans la rédaction de ce livre et de t'attaquer aux problématiques de la recherche scientifique d'aujourd'hui ?
Donc d'abord, je ne suis pas un scientifique, je suis de formation scientifique. Oui. Voilà, c'est quand même un peu différent. Je ne connaissais pas Grothendieck. Je me souviens d'un coup de fil d'un camarade qui cherchait Grothendieck à l'époque où il avait disparu, à l'époque où on ne savait pas où il était. Ce camarade s'appelait Fabrice Nicolino, on peut le nommer, qui cherchait à retrouver sa trace. À l'époque, j'habitais dans le sud, il me dit « Tu ne sais pas où il est ?» Moi, je ne savais pas qui c'était. Voilà, ça devait être en 2005-2006. Et après, il se trouve que vers 2008-2009, par là, j'ai écrit une histoire de la faculté des sciences de Montpellier, où Grothendieck a enseigné. Et donc j'avais les clés des archives, et qui étaient formal classées. C'était des amas de papiers dans tous les sens. Et je tombe dans cet amas de papiers sur le dossier personnel, donc le dossier administratif d'Alexandre Grothendieck. Je me dis, tiens, c'est quand même intéressant ce truc. Et ce dossier administratif était épouvantable. C'était un dossier fait d'humiliation, de blâme, etc. Ils s'entendaient très, 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 très mal avec l'ensemble de l'équipe enseignante. Et donc, j'avais entre-temps un petit peu entendu parler de lui. Je trouvais ça quand même drôlement intéressant. Peu après, il est décédé. Et j'ai fait en sorte que le dossier soit sorti du chaos des archives, parce qu'il y avait quand même une certaine importance à tout ça. Mais donc voilà, je ne l'ai pas connu, ça c'est une première chose évidente, mais je ne l'ai même pas de son vivant approché, si ce n'est à travers cette trace administrative, qui était précisément ce qu'il détestait d'ailleurs, les traces administratives. Donc les mathématiques, je suis parfaitement incapable de les comprendre. Et j'ai lu Récolte des sommeils quand c'est sorti, ça je l'ai lu en plusieurs nuits, et ça a vraiment été un texte bouleversant. En admettant évidemment que je n'en comprends pas la moitié. Enfin, vous savez, Récolte des sommeils, de manière dont c'est fichu, il y a des pages merveilleuses. Je pense en particulier aux pages où il décrit l'écriture d'un article scientifique comme un accouchement, et il lui dit, mais finalement, ce qui est très curieux, c'est que on ne montre jamais comment l'article a été écrit, de même qu'on ne montre jamais les draps tachés de sang d'un accouchement. Et je trouve l'image est très très belle. Enfin, c'est aussi un écrivain merveilleux. Voilà, donc j'ai retrouvé Grothendieck quand Récolte des sommeils sont sortis. Voilà, en quelques mots.
Dans le premier chapitre de ton livre, pour revenir un peu à la définition des termes, tu cites la philosophe des sciences Isabelle Stengers, qui appelait déjà de ses voeux en 2017 à un ralentissement des sciences dans un manifeste intitulé « Une autre science est possible ». Et donc, on voulait te poser la question de comment tu te positionnes par rapport au concept qu'elle appelle « slow science » et quelle est la différence avec la décroissance que toi tu décris dans ton ouvrage.
C'est pareil, comment dire, on cherche tous un mot pour désigner ce qu'on voit bien, ce qu'il faudrait faire, aller moins vite, en faire moins, etc. Quel est le bon terme? Je ne sais pas. Quel est le bon concept? J'en sais rien. Isabelle Stengers, c'est philosophe, c'est le métier des philosophes de forger des concepts. Je leur fais confiance.
Et tout à l'heure dans l'édito, j'ai cité la date de 1972, qui est le point de départ du coup de ton essai, c'est le point de départ de ta problématique, c'est de lier ce rapport Meadows et la conférence de Grothendieck. Pourquoi avoir choisi ces deux événements, cette date de 1972, comme point de départ et comme originalité de ton œuvre, en fait, c'est de lier ces deux questions qui, a priori, n'étaient pas liées au départ. Pourquoi ce point de départ-là dans ton ouvrage sur la décroissance?
Alors la vraie raison, c'est parce que je suis très narcissique et que je suis né en 72. Et la fausse raison, c'est que les deux phénomènes sont quand même fascinants. C'est-à-dire ces deux textes que je trouve extrêmement importants pour leur portée intellectuelle et leur ambition. Enfin, le rapport Meadows qui pose cette idée qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie de la production et des richesses sans accumuler pollution, dégradation, etc. C'est un texte qui s'est avéré parfaitement visionnaire. On est en plein là-dedans, même si leur méthode, c'est très curieux d'ailleurs, parce que dans leur méthode de modélisation, il y avait des tas de choses qui n'allaient pas du tout, mais pourtant ils sont tombés parfaitement juste avec des méthodes en partie biaisées. Le texte de la conférence de Grothendieck au CERN, qui était un texte complètement oublié, je pourrais raconter après comment je l'ai découvert, est aussi un texte extrêmement puissant. Les textes que Sacha, tu as rappelé, tu en as cité quelques éléments extrêmement judicieux. Donc, c'est ces deux textes d'une très haute, portée. Et c'est pour ça que je me disais que c'était bien de commencer le bouquin en les rapprochant.
Et tout à l'heure, Sacha justement a dit que c'était un peu un des points de départ en France de l'histoire de la critique des sciences, notamment la conférence de Grothendieck. Et toi, t'expliques aussi dans le livre qu'avec l'essor du néolibéralisme dans les années 1980, cette autocritique de la part du monde de la recherche, elle s'est un peu étiolée petit à petit, alors qu'elle était bien plus vive dans les années 70. Et donc,
Comment t'expliques que cette critique des sciences, cette autocritique des sciences aujourd'hui, elle est inexistante, elle a été inexistante pendant longtemps, même si elle reprend comme avec l'exemple qu'a cité Sacha. Comment t'expliques cet affaissement de l'autocritique des sciences?
Je pense qu'il faut prendre ça plus généralement en essayant de comprendre comment le néolibéralisme et toutes ses déclinaisons ont pu apprendre à ce point un pouvoir planétaire à partir de la fin des années 70, on pourrait dire quasiment à partir de l'assassinat de Salvador Allende, si on voulait aller vite, quoi. Ou disons de la prise de pouvoir de Thatcher et Reagan, ce tournant des années 80. La critique des sciences est un petit aspect d'un problème très 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 général, qui inclut la chute de l'URSS et du camp socialiste, qui inclut la mondialisation néolibérale, qui inclut l'hégémonie américaine et maintenant la concurrence avec l'hégémonie chinoise. Disons, la critique des sciences n'est qu'un tout petit aspect. La critique des sciences, dès les années 70, était un aspect d'une remise en cause générale extrêmement intéressante. J'étais ce matin même aux archives de la préfecture de police. Voilà. Et je travaillais sur autre chose, mais je rapporte cette anecdote pour montrer à quel point on a complètement oublié quelle était l'ambiance des années 70. C'était un dossier sur un lycée parisien, un célèbre lycée parisien. Et donc il était question de professeurs qui avaient tabassé une professeure de mathématiques au nom du fait qu'elle était gaulliste, et donc selon le rapport de police, et en insistant sur le fait de dire « crève salope ». Voilà, la professeure, voilà. Ce qui aujourd'hui passe pour terrorisme, etc. Et l'ambiance à l'époque, et c'était juste un rapport de police, il n'y a pas eu d'arrestation, il y a eu. Il y avait cette ambiance de contestation de toute hiérarchie, y compris une brave professeure de mathématiques, je ne fais pas du tout l'apologie de cette agression gratuite, mais tout ça pouvait passer pour assez commun, ce qui passerait aujourd'hui pour acte terroriste, vandalisme, etc. Voilà. C'est juste, je rapporte ça pour dire, voilà quelle était l'ambiance des années 70, dans laquelle s'inscrivait cette critique des sciences radicales. Je n'ai pas connu ces années 70, mais j'aime assez l'histoire pour me faire une petite idée de choses qui étaient pensables et qui ne le sont plus.
Très bien. Et on va passer, après la pause musicale, on va voir ce qui se passe après dans les années 80 et qu'est-ce qui s'est passé pour la recherche scientifique dans les années 80. Et avant ça, on s'écoute tout de suite Enola Gay de Orchestral Maneuvers in the Dark. Et on vient de s'écouter Enola Gay, pardon, de Orchestral Maneuvers in the Dark.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Et justement, pour revenir avec nos questions, on voudrait parler du coup des années 80, comme a dit Pia tout à l'heure, et notamment de la soumission de la recherche à l'impératif de la croissance, qui s'est déployée aussi dans le cadre de la doctrine du New Public Management. Et est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est cette doctrine et comment elle a impacté la pratique de la recherche scientifique ?
C'est une doctrine qui consiste à dire que les services publics, les services assurés par l'État, doivent pouvoir être estimés à partir d'indicateurs quantitatifs. Par exemple, pour un hôpital, on va mesurer le taux d'occupation des lits. Pour un commissariat de police, on va mesurer le taux d'élucidation, des plaintes déposées, ce genre de choses. Ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui déboule très vite sur un système où le critère devient plus important que ce que le critère est censé mesurer. Appliqué à la recherche, c'est l'activité scientifique doit servir à faire des publications, beaucoup de publications, et le critère devient le nombre de publications, éventuellement l'influence de ces publications, de la même manière. Et donc on sait bien qu'il est absurde de mesurer l'efficacité de la police en mesurant le nombre de plaintes élucidées, parce qu'il suffit d'élucider les plaintes faciles, et on va dire, voilà. Et donc c'est pareil pour la recherche.
Et du coup, cette doctrine du New Public Management, elle a créé un lien un peu très très fort entre la croissance économique et la recherche scientifique. Dans le livre, t'as un chapitre où tu dresses le constat de ces ravages du productivisme scientifique. Tu parles également de ce qu'on appelle les revues prédatrices et également la recrudescence des cas de fraude scientifique, notamment après le Covid-19. Est-ce que tu peux parler de pourquoi cette pandémie rapidement, pourquoi ça a été un tournant dans ces dérives ou dans ces problématiques de la recherche scientifique en termes de publication.
Je suis pas persuadé que ça a été un tournant, je dirais plus que ça a été un révélateur.
D'accord.
Voilà, ça a mis à jour des choses qui existaient, ça les a mises à jour de manière particulièrement spectaculaire parce que tout le monde scrutait les informations scientifiques.
Ouais. Tout le monde s'improvisait un peu scientifique. Voilà.
Et toujours dans le constat des problématiques inhérentes à la recherche scientifique que tu fais dans le livre, tu parles aussi des émissions de gaz à effet de serre, des laboratoires actuellement, et tu parles notamment de l'initiative du collectif de chercheurs Labo 1.5 qu'a cité Sacha dans sa chronique, qui a été formée en 2019, et qui a aussi permis d'apporter des chiffres relativement précis sur les émissions de gaz à effet de serre des laboratoires. Et en fonction du domaine de recherche, elles peuvent être très élevées, avec 7,3 tonnes d'équivalent CO2 par an et par chercheur en moyenne, selon la méthodologie de Labo 1.5. Quels sont les principaux postes d'émission de la recherche aujourd'hui et pourquoi ?
Il n'est pas possible de répondre à cette question parce que la recherche, c'est trop général. Si on parle d'astronomie, on parlera de télescopes spatiaux et de moyens spatiaux. Si on parle d'océanographie, on parlera de navires océanographiques. Si on parle de physique des hautes énergies, on parlera d'accélérateurs de particules. Donc on ne peut pas répondre en général. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces grands équipements que je viens de citer sont des postes très lourds d'émissions de gaz à effet de serre. Ça va avec un type de science qui collecte des données massives. Après, il faut les stocker, etc. Ça, c'est un poste important. D'autres postes résident dans des choses, disons, plus quotidiennes dans le laboratoire, les voyages, mais pas que. C'est finalement pas si important que ça. Également, les achats du quotidien. Alors, vous voyez, un laboratoire de je sais pas quoi, de chimie, de biologie, on reçoit chaque jour des dizaines de cartons de réactifs, de produits, etc. Mais tout ça.
Et tout est très plastifié, suremballé.
Extrêmement plastifié. En fait, puisqu'on parle des années 70, la biologie des années 70, la chimie des années 70 se faisait avec de la verrerie, pas avec du plastique jetable. Et donc ça supposait tout un travail de laboratoire avec du personnel affecté à la verrerie, etc. Mais tout ce quotidien, ces béchers, ces Erlenmeyer, ces plaques de culture, etc., tout ça était en verre, tout ça se lavait. Je ne dis pas qu'il faut forcément revenir à ça, mais en tout cas, c'est également possible d'envisager de recycler, d'utiliser les mêmes instruments.
Et aussi, juste très rapidement, sur les émissions de gaz à effet de serre des labos, tu parles de ce qu'on appelle l'aéromobilité académique. Donc, c'est les chercheurs qui font beaucoup de voyages pour aller dans des colloques à l'étranger, etc. Est-ce que c'est un poste d'émission important?
C'est un poste très important symboliquement.
Ouais, ok. et voilà. qui serait facile à réduire du coup de fait.
C'est la vertu des symboles, c'est que justement quand on s'attaque aux symboles, et ben on suscite des discussions, des débats. Donc.
Ok, et alors maintenant on va passer à la troisième partie de ton ouvrage qui est consacrée plutôt aux solutions, aux initiatives concrètes à mettre en place pour justement mettre en place cette politique de décroissance. Dans le chapitre 7, tu prends l'exemple de plusieurs chercheurs et chercheuses qui bifurquent, donc qui changent de carrière, soit qui renoncent à la recherche, soit qui réorientent leur recherche. C'est notamment la docteure en mathématiques Eva Philippe qui explique dans son manuscrit de thèse ne pas vouloir poursuivre sa carrière académique. Et elle explique, je cite, « Mes mathématiques à moi intéressent des banques qu'elles ne sont pas financées pour leur seul intérêt esthétique, qu'elles ont le potentiel d'accroître les inégalités de richesse et de maintenir les systèmes de domination. » Par contre, un peu dans cette même idée de scientifique ou de chercheur qui bifurque, il y a un exemple que tu n'as pas cité dans le livre, qui est le fameux appel à déserter des étudiants, des jeunes diplômés d'AgroParisTech en 2022, dont je vous propose d'écouter un extrait.
Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
Alors, on vient d'écouter donc cet extrait de l'appel à déserter les étudiants d'AgroParisTech en 2022. Nicolas, est-ce que pour toi, cette démarche engagée par les étudiants ingénieurs d'AgroParisTech, c'est aussi une démarche de décroissance, qui s'inscrit dans une politique de décroissance? Est-ce que c'est un exemple de bifurcation comme ceux que tu as pu citer dans ton ouvrage?
Bah oui, bien sûr, et il y en a eu d'autres depuis. Et pour faire le lien avec Grothendieck, la critique s'est récemment étendue aux aspects militaires. Enfin, il me semble qu'il y a une jeune femme qui était diplômée d'une école d'optique qui a prononcé un discours solennel sur ce truc.
Il y a une
jeune femme également sortie de Polytechnique et qui ont intégré non seulement la critique du capitalisme, mais également du lien au militaire. Moi, je trouve ça extrêmement vivifiant et riche de promesses, évidemment.
C'est vrai que j'étais surpris de ne pas le voir dans ton ouvrage, du coup, dans cette idée de bifurcation. Est-ce qu'il y avait une raison peut-être plus éditoriale aussi
C'est que je parlais de chercheurs déjà en poste. D'accord. De cette manière, je ne dirais pas que c'est plus facile parce que ces gens sont très courageux, mais disons, on peut bifurquer avant d'avoir commencé une carrière. Une fois qu'on est dans une carrière avec les habitudes de chercheurs, etc., c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé. C'est quand on concède tous les efforts qu'il faut pour devenir chercheur, etc., au bout de 10 ans de carrière, on se dit je vais faire autre chose. Ça m'avait particulièrement impressionné, mais je suis tout autant d'admiration pour les jeunes bifurquants et bifurquantes.
Très bien. On va faire une petite pause dans l'interview pour la chronique de Corentin, qui va nous plonger dans les failles du productivisme scientifique et de facteurs d'impact, il me semble. Salut très Corentin.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Nous t'écoutons, Corentin.
Eh bien, oui, bonjour tout le monde. Donc, comme tu l'as dit, on va parler facteur d'impact, un sujet passionnant et facile à comprendre de 7 à 77 ans.
Bien sûr.
Donc là, vous allez me demander, mais qu'est-ce donc ce facteur d'impact?
Qu'est-ce donc ce facteur d'impact?
Eh bien, merci pour cette question particulièrement pertinente. Et alors, il s'agit ni plus ni moins que du gold standard ou du standard doré, de l'importance d'une revue scientifique et donc de sa qualité présumée. Il a été créé par un certain Eugène Garfield en 1975, un docteur en linguistique, businessman et charroux à succès qui, entre deux lasagnes, s'est dit que quand même, ce serait sympa de pouvoir classer les revues scientifiques pour savoir à qui on peut faire confiance dans ce monde de brut. Il donna ainsi naissance à cet outil de mesure du nombre de citations des revues scientifiques et à l'Institute for Scientific Information, l'Institut pour les informations scientifiques, servant de base de données bibliographiques et indexant les citations de milliers de revues scientifiques. Aujourd'hui, celui-ci est devenu le Clarivate, à ne pas confondre avec la clarinette, un instrument à vent qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet. Bref, l'arrivée de cet outil a fortement influencé le développement des recherches scientifiques. Alors que l'on pouvait penser qu'il permettrait de donner de la visibilité aux revues les plus sérieuses et à permettre d'éclipser celles qui n'abritaient que des études de charlatans, l'affaire est finalement plus complexe et l'impact factor présente de nombreux biais remettant en question son utilité et sa fiabilité. Remontons à la racine du problème. Pour cela, nous allons nous servir des travaux de Cassidy Sugimoto et Vincent Larivière, des chercheurs canado-américains, spécialisé dans la communication scientifique et ayant décortiqué l'impact factor sous toutes ses coutures. Parlons d'abord du calcul du facteur d'impact. Celui-ci correspond à la moyenne du nombre de citations dans une revue sur les deux dernières années. Et le souci avec les moyennes, c'est qu'elles sont hypersensibles aux extrêmes. Donc les articles avec un très fort taux de citation tireront vers le haut l'impact factor de leur revue, même si dans l'ensemble, celles-ci ont peu d'articles à succès. Un autre grain de sable vient enrayer les rouages du facteur d'impact. Ce sont les éléments citables, selon Clarivate. Des éditos aux nécrologies, les grandes revues comme Nature bénéficient d'un impact factor sous stéroïdes, grâce à ces éléments ne participant pas à l'effort des connaissances scientifiques. Nature confie d'ailleurs avoir bénéficié d'une inflation de près de 20% de son impact factor de 2016 grâce à ses productions. Outre ces deux éléments très mathématiques, je tenais à revenir sur l'un des effets les plus pervers du système de classement comme l'impact factor. Celui-ci pousse les revues à publier de plus en plus d'articles pour faire grossir leur impact factor et donc, de facto, leur prestige. Un système qui fait de la quantité un engrais pour la croissance de la réputation d'une revue, aux dépens, malheureusement, de sa qualité. De nombreuses alternatives ont été proposées à l'impact factor. Ces dernières comblent la plupart des fissures de cet outil de classement des revues scientifiques. Cependant, elles ne répondent pas aux problèmes plus profonds du classement des revues scientifiques. Le classement lui-même. Souvent, celui-ci est utilisé comme un outil de mesure fiable pour déterminer la qualité d'un papier. Pourtant, il n'y a qu'un seul moyen de savoir si des travaux sont légitimes. Il faut les lire et surtout les faire relire. Voilà.
Merci beaucoup, Corentin, pour cette chronique. Et avant de poursuivre l'interview, on va se faire une petite pause musicale très courte. On va s'écouter Paranoid Android de Radiohead. Nous sommes de retour dans l'Happy Hour Scientifique, on vient de s'écouter Paranoid Android de Radiohead.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Et nous sommes donc de retour avec notre invité Nicolas Chevassiolu pour parler de son ouvrage Décroissance. Et nous étions dans la partie perspective, comment mettre en place concrètement cette décroissance et quelles solutions sont possibles pour la mettre en place. Dans ta partie sur les chercheurs qui bifurquent, tu parles également des chercheurs qu'on appelle défroqués, un mot un peu moche, mais qui veut dire des chercheurs qui sont retirés de la recherche. Donc, tu donnes l'exemple du cristallographe Miguel Ortiz Lombardia qui a démissionné du CNRS et qui s'est tourné vers le bénévolat associatif. Et ce cristallographe dit, je cite, « Il m'a fallu sortir de ce milieu pour m'apercevoir que la réforme de la recherche est à peu près comme celle du capitalisme, c'est-à-dire une illusion. » Nicolas, est-ce que tu penses, comme Lombardia, que la recherche scientifique n'est pas réformable ?
Non, sinon j'aurais pas écrit des croissances, si je le pensais.
Comment en quoi ton opinion diverge de celle de Lombardia ? Est-ce que en termes de radicalité peut-être, ou en termes de stratégie de...
Ou d'optimisme
aussi, peut-être aussi. Ouais.
Vous savez, Antonio Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien, appelait toujours à être pessimiste par l'intelligence et optimiste par la volonté. On va essayer d'être optimiste par la volonté.
Très
et
bien.
Partir de ce qui existe déjà dans les contestations actuelles, qu'on a plusieurs fois évoquées dans l'émission, que ce soit sous forme de bifurcation et de mouvements critiques qu'évoquait Sacha dans sa chronique, qui sont extrêmement intéressants. Labo 1.5, c'est pas rien quand même, c'est la moitié des laboratoires français. qui, avec une méthode commune, ont fait le constat que leur activité de recherche était parfaitement incompatible avec le fait de prendre au sérieux les objectifs de l'accord de Paris. Bon, peut-être qu'ils vont décider de s'asseoir là-dessus et de continuer comme si de rien n'était. Mais en tout cas, ils ne pourront pas le faire en méconnaissance de cause.
Tout à fait. Et juste pour comprendre, pour le bon point 5, c'est sur l'initiative des laboratoires qui rejoignent, enfin qui mettent à disposition leurs données sur leurs émissions ou leurs.
Exactement, c'est l'initiative des chercheurs eux-mêmes, avec le soutien de leur hiérarchie, en l'occurrence des organismes de recherche qui ont mis à disposition toutes les données statistiques nécessaires pour savoir faire ces bilans carbone. C'est tout à fait intéressant. On n'est pas dans une opposition chercheurs contre leur hiérarchie. Non, il y a des. La hiérarchie a soutenu tout ça, jusqu'à quel point c'est un débat ouvert, mais en tout cas je pense qu'il y a des facteurs d'évolution extrêmement intéressants à l'œuvre aujourd'hui dans le monde scientifique.
Et pour rester sur cet optimisme par la volonté, comme tu dis, parmi les solutions possibles concrètes pour amorcer cette décroissance, tu parles aussi de l'importance de la planification démocratique pour la recherche scientifique. Je te cite dans le livre, il va donc falloir se résigner à certaines recherches, tant leur impact sur l'environnement est aujourd'hui devenu difficilement défendable.
Tu as oublié un verbe, il me semble. Il va falloir se résigner.
Il va donc falloir se résigner, oui, à certaines recherches.
À abandonner.
Abandonner.
Il manquait un verbe.
Tout à fait.
Et une autre
citation, c'est ne pourrait-on pas imaginer une Cour des comptes écologique et plus généralement l'introduction d'un critère écologique dans l'examen de tout nouveau projet de recherche. Fin de citation. Donc là, c'est deux exemples de planification plus ou moins démocratique de la recherche scientifique. Et qu'est-ce que tu réponds aux scientifiques qui craignent pour leur liberté académique dès qu'on parle de planification de la recherche ?
Oui. Je ne suis pas un grand fan de la liberté académique.
Fin d'émission.
Il faut expliquer. Il y a plein de manières de définir la liberté académique. Mais si on la définit comme le droit des communautés scientifiques à s'administrer elles-mêmes et à définir leurs propres critères de véridicité, c'est-à-dire de définir ce qui est vrai, ce qui est faux, je suis un grand fan de la liberté académique. Si on la définit comme un droit inconditionnel des chercheurs à mener les recherches qu'ils souhaitent, je ne suis pas du tout fan de la liberté académique. C'est sur ce second point que je vais m'exprimer. Et planification, oui, ben, planification, c'est tout simplement la seule alternative que je connaisse au marché. C'est-à-dire, c'est comment on fait évoluer une société. Soit on laisse le libre jeu des forces du marché, de l'offre et de la demande, soit l'État intervient et définit des plans. Je ne demande qu'à connaître d'autres méthodes d'organisation de la vie sociale que le marché ou la planification.
D'ailleurs, dans la dernière partie du livre, tu t'attaches à un peu déconstruire la peur que suscite le terme de planification, et tu rappelles que de la planification, en fait, il y en a eu déjà plusieurs fois dans l'histoire, notamment dans des périodes de crise, pendant la guerre, juste après la guerre, etc., et qu'en fait, ça ne devrait pas nous faire peur autant que ça, notamment, du coup, appliqué à la recherche scientifique, en fait, et que ça peut être totalement faisable, quoi.
Tout à fait.
Même après le pic pétrolier de 73, je crois, il y a eu une période de planification aussi de la recherche.
Et alors pour revenir sur une autre possibilité pour mettre en place la décroissance, tu consacres un chapitre de ton livre au cas des moratoires. Tu prends notamment l'exemple de deux moratoires au cours de l'histoire qui ont rencontré plus ou moins de succès, notamment le moratoire sur le génie génétique avec la conférence d'Asile Omar. Tu pourras peut-être en parler rapidement, raconter cette histoire pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas. Ma question c'est la suivante, c'est est-ce que le moratoire c'est encore un bon outil qui permettrait de réguler et ou de limiter certaines recherches ? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de faire des moratoires? On peut parler des bactéries miroirs qui étaient un peu plus récents aussi, où un moratoire a été proposé. Est-ce que c'est encore un bon outil pour ça?
Le cas des bactéries miroirs, donc à savoir des bactéries qui n'existent pas aujourd'hui, qui pourraient exister peut-être d'ici une dizaine d'années, et construites de manière totalement artificielle avec des molécules qui n'existent pas dans la nature, on ne va pas rentrer dans les détails, illustre pour moi parfaitement bien l'aporie, l'impasse des moratoires, puisque d'éminents spécialistes de ces questions ont appelé dans la revue Science en décembre dernier un moratoire sur ce genre d'expérience, tout en expliquant que ce genre d'expérience était susceptible de détruire l'ensemble de la vie sur Terre. Dès lors, pourquoi parler de moratoire ? Si c'est vraiment ça l'enjeu, il faut parler de réunir d'urgence l'ONU et d'organiser un traité international d'interdiction de ce genre d'expérience. Moratoire est totalement dérisoire. Voilà.
C'est un peu vidé de son sens, on a l'impression. En fait, ça fait joli, mais en fait, c'est concrètement, ça n'a pas trop d'impact.
Absolument. Mmh. Absolument. Et d'autant plus que quand je parle d'un traité international d'interdiction de ce type d'expérience, c'est qu'il y a, des précédents. On peut être, et il y a des raisons d'être, perplexe, voire sceptique, voire désespéré sur le droit international aujourd'hui. Mais il y a quand même des choses qui ne marchent pas trop mal. Par exemple, l'expérimentation sur l'humain. Mmh. Ouais. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'expérimente plus sur les humains. Voilà, sans un cadre. L'interdiction du clonage reproductif humain, ça marche pas trop mal. À l'échelle de l'Union européenne, c'est pas mondial, mais l'Union européenne, l'interdiction des expérimentations d'OGM en plein champ, l'interdiction de l'expérimentation sur les grands singes, etc. Il y a des choses. Le droit international n'est pas un outil aussi vide. Bon, évidemment, l'actualité internationale incite à être pessimiste, mais cet outil fonctionne en partie.
Moi, ça me fait penser juste à une question par rapport à ça, mais c'est quoi l'importance de l'opinion publique là-dedans? Parce que tout à l'heure, PA a parlé d'Asile Omar, mais c'était aussi une des premières fois où l'opinion publique s'est vraiment mêlée de la question de la recherche scientifique, notamment après la Seconde Guerre mondiale et la bombe atomique. Mais voilà, à quel point l'opinion publique joue un rôle dans le succès des interdictions?
Notamment le cas de l'expérimentation animale sur les grands singes dont tu parlais, donc tu décris aussi dans le livre.
Un rôle central, parce que ça ne partira pas du monde scientifique lui-même. Mmh. Puisqu'on prend l'exemple de l'expérimentation animale, le monde scientifique qui s'occupait de ces choses-là, les physiologistes, etc., était très content d'expérimenter sur les grands singes, c'était bien pratique, c'était plus, etc. Mmh. Bon, c'est pas d'eux-mêmes qu'ils ont décidé qu'il est interdit d'expérimenter sur les grands singes et que même l'expérimentation sur les macaques et compagnie était beaucoup plus encadrée. Ils n'ont pas choisi de même. C'est le mouvement animaliste qui a imposé cette pression de l'extérieur, qui a changé complètement la manière d'expérimenter dans un sens plus respectueux des droits animaux, et tant mieux. Ça n'a pas mis fin à la recherche, loin de là.
Et pour conclure un peu cette interview, déjà moi j'ai une première courte question, et c'est quoi l'opposé de la décroissance, est-ce que c'est le business as usual actuel, ou est-ce que ça pourrait être encore pire que soi?
Oh ben ça peut certainement être pire. Ça peut toujours être pire. Je pense que monsieur Elon Musk a d'excellentes idées. Pire.
Très bien. Et en parlant d'Elon Musk, est-ce que c'est possible pour toi, selon toi, de réconcilier les technosolutionnistes et les partisans de la décroissance, justement, de cette
modification ? D'accord. Non, ce n'est pas possible. Ce sont deux options qui méritent d'être débattues publiquement. J'espère que ce livre y contribuera. Mais on ne peut pas à la fois croire que la recherche scientifique nous sortira du chaos dans lequel nous sommes plongés et défendre la réduction. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas. Ce sont deux camps. Comme disait Rosa Luxembourg, je ne connais que deux camps, deux côtés d'une barricade. Et que deux côtés.
Et peut-être une toute dernière question en termes de perspective. Est-ce que tu ne penses pas, vu la situation actuelle de la recherche scientifique, qu'on n'irait pas vers une polarisation de plus en plus extrême entre justement ces technosolutionnistes, technofascistes même en fait, et les partisans d'une décroissance et d'une décroissance en particulier
Si, je pense qu'on s'oriente vers ça, et je pense que ce sont donc une période extrêmement intéressante, d'autant plus que le fonctionnement du monde scientifique français, et là j'insiste bien sur français, repose très largement sur des formes d'auto-administration par les chercheurs eux-mêmes, etc. Et donc ce conflit que tu évoques, qui est réel, que je pense va prendre une place croissante, est pour moi une source d'espoir. Juste pour rapporter une anecdote, de plus en plus de chercheurs ne veulent pas prendre l'avion. Ne prendront pas l'avion, point. Bon, on serait dans une entreprise privée, ils seraient virés, puisqu'on leur demande d'aller, je sais pas. Bon, au CNRS, ils ne sont pas virés, au contraire, le CNRS dit, bon, on va trouver, c'est pas grave, vous voulez pas prendre l'avion, on va faire autre chose. Voilà des exemples de négociations internes liées à des formes d'auto-administration de la recherche que je trouve extrêmement prometteuses si l'on choisit l'optimisme de la volonté.
Merci beaucoup pour ces mots de conclusion, et on espère que du coup notre émission contribuera au débat public sur cette question.
Je l'espère, moi aussi.
Et avant de rendre l'antenne, on place au Caps ou pas Caps avec Lola.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
On t'écoute, Lola.
Ok, c'est parti. Je vous propose donc pour cette fin d'émission de parler de chercheurs et chercheuses un peu stylés qui tentent de réfléchir à leurs pratiques. Donc soit on compte les points, un point par bonne réponse, ou bien on peut se dire que c'est un quiz collaboratif. Comme ça, on sort de cette mascarade de la compétition qui nous a servi et nous met au service du grand capital.
On a vachement le choix. Je préfère la compétition.
Ah, bon, et ben, c'est parti. Première question. En ce début d'année 2025, un chercheur a obtenu une indemnité en justice à la suite de son licenciement pour faute grave par un institut de recherche. Oui. Ma question est la suivante, si vous connaissez la réponse, ne la dites pas tout de suite. Pourquoi a-t-il été licencié ?
Moi, je vais donner un indice, ah, ça se passe dans la mer du Nord.
Ah, est-ce qu'on a le même ? Oui, sûrement. Et si vous n'avez aucune idée, je peux vous aider en vous donnant des propositions.
Oui, on va prendre les propositions. Ouais,
vous prenez la proposition.
Avec plaisir.
Alors, petit 1, il a refusé de prendre l'avion dans le cadre de son travail. Petit 2, il a refusé de travailler sur un projet financé en partie par des entreprises privées extrêmement polluantes. Je ne citerai pas de nom, mais ça commence par Total et ça finit par Énergie. Ou petit 3, il s'est littéralement collé au sol avec d'autres scientifiques pendant plusieurs heures dans un musée.
Ah, moi je dirais l'option 2.
Moi, je dirais l'option 2, c'est refuser de... Mais c'est pas entreprise privée.
Mais c'est en France, l'histoire que tu évoques ?
Non.
Il travaille dans quel institut ?
Alors, c'est un chercheur italien qui travaille en Allemagne.
Alors, c'est bien, ça, oui, ça se passe dans la mer du Nord.
Oui, exactement.
Ça commence par un P.
Moi, je dirais la première option. Non,
par R.
Comment ?
Je dirais l'avion, moi, mais je ne sais pas.
C'est votre ultime bafouille ? Ouais. Allez, eh bien, c'est Sacha qui a raison. Il a refusé de prendre l'avion pour rentrer d'une mission à l'étranger.
En Indonésie.
Exactement.
Il est rentré d'Indonésie à Rostock en vélo.
Ah, en vélo ? Alors moi, j'ai pas celle-ci, j'en ai une autre. Mais celui-là, je sais pas si t'es fait licencier.
Le
mien, donc, ouais, c'est ça. Gianluca Grimalda a été licencié parce qu'il a refusé de prendre l'avion en rentrant d'une mission sur le terrain dans l'archipel des îles Salomon. En Océanie.
Ah, pardon.
Et donc ça faisait 10 ans qu'il faisait du voyage lent pour ses terrains, sauf que cette fois-ci, il a eu des soucis sur son terrain et donc ses recherches ont pris du retard et l'institut lui a dit bah soit tu rentres dans 5 jours, tu as 5 jours pour rentrer, soit bah c'est ciao.
C'est ciao.
Et bien c'était ciao pour Gianluca parce qu'il n'a
pas pédalé assez vite.
Il a décidé de ne pas rentrer en avion et donc ça lui coûtera sa place à l'institut. Voilà. Ce qui m'amène à une deuxième petite question sur le sujet. Tout simplement, combien de temps a-t-il mis pour rentrer ? Sachant qu'il a
moi,
pris...
Moi, je crois vraiment qu'il est rentré en vélo.
Eh bien, hein. moi, j'ai... sur son blog, il raconte qu'il a pris le train, vélo, effectivement, voiture, ferry.
Donc, Indonésie jusqu'en Allemagne.
Allemagne, soit 28 000
km.
Mais effectivement, il a fait d'autres terrains où il est parti en vélo et rentré en vélo.
3-4 heures.
15 jours peut-être. 15 jours, allez, un mois.
Moi je dirais 3 mois.
Je dirais,
Moi je dirais un mois aussi.
Je sais pas, est-ce qu'il s'est posé faire un peu de tourisme du coup ?
Il a tracé un peu.
Il était en mission ou il était.
Oh bah après, il était viré.
70 jours.
70 jours, qui dit mieux, qui dit plus, qui dit moins.
70 jours, c'est bien.
75 ? Vous êtes fort. 72 jours.
Oh, ouais.
Eh oui, pour parcourir 16 pays.
Bah c'est comme le tour du monde en 80 jours. Hein,
et petite anecdote sur Gianluca. Si l'Institut l'avait soutenu dans ses démarches de voyage lent, c'est toujours lui qui compensait financièrement de sa poche l'écart de prix entre l'avion et ses autres moyens de transport. Et donc, car voyager moins, à moindre coût écologique, ça a un prix. Ce qui m'amène une nouvelle fois à une autre question. Les transitions sont finement travaillées.
Oui.
C'est très bien fait. Et donc, combien de tonnes en équivalent CO2 a-t-il économisé en ne prenant pas l'avion ? C'est-à-dire la différence entre son empreinte carbone s'il avait pris l'avion et celle qu'il a réellement dépensée. 200 tonnes. Sachant que, qu'en moyenne, à peu près, un Français consomme actuellement 5 tonnes équivalent CO2 par an.
72 tonnes. Je pense que là, on est sur. Je sais pas le.
Des dizaines.
Le
bonheur, ça va être quoi. Des dizaines, on va dire.
Peut-être 4-5 tonnes. Moi, je dirais 4-5 tonnes.
Non, plus. Bah, parce qu'un voyage transatlantique, c'est déjà 3-4. Donc là, c'est plusieurs voyages. Donc, des dizaines.
Allez.
12. Bon. Et bien, c'est Thomas qui est plus proche, 4,5 tonnes équivalent CO2 environ.
C'est le référent voilà. Énergie du fait.
Bravo.
Sur ce coup-là, c'est un peu approximatif parce que j'ai fait moi-même mes petits calculs sur différents simulateurs de vol.
Voilà, Jean Covici.
Et donc, la moyenne est autour de 5 tonnes équivalent CO2. Et sur son blog, Gianluca avance un bilan global de 500 kg équivalent CO2, soit 4,5 tonnes équivalent CO2 de différence.
Merci beaucoup Lola, on va devoir s'arrêter là malheureusement. On ne pourra pas aller au bout de ce magnifique Caps ou pas Caps. C'est déjà la fin de la Piawar scientifique pour aujourd'hui. Merci à notre invité Nicolas Chevassiolouis qui était avec
plaisir.
Nous pour parler de son ouvrage Décroissance, toujours disponible aux éditions Agone. Merci à toute la team de la Power Scientifique, évidemment, avec Thomas, avec Marie, avec Sacha, avec Corentin, avec Lola et Chiara et PY à la Réal. Et quant à vous, chers auditeurs, prochain rendez-vous de la Power Scientifique pour une émission spéciale au Festival International du Film Scientifique à Paris Science, un festival gratuit qui se tiendra à Paris du 23 au 27 octobre et nous serons en direct le samedi 25.
25, ouais.
Samedi 25.
Je sais pas si on sera en direct, mais.
Je crois que c'est en direct.
Ah, ok, si, on verra. Confirme. On vous dira.
À 16h30, samedi 25 octobre. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @HHScientifique, et à écouter toutes nos précédentes émissions en replay sur votre plateforme de streaming favorite. À bientôt.
Bon, bah, il y a messieurs, hein. À la prochaine. Et au revoir. Et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.